Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 29 avril. Nous reviendrons sur les intempéries dans le Rhône. Les violents incidents en centre-ville à Givors ce week-end. Le nom du futur maire de Mions sera connu vendredi. L'exposition universelle de 1894 à Lyon a été inaugurée il y a tout juste 130 ans. Un anniversaire qui passera inaperçu encore cette année, car cet événement est en fait assez peu glorieux, voire même suscite la honte. Explication avec Christophe Amani du collectif Africa 50. Aider les auto-entrepreneurs à éviter l'enfer administratif, c'est le défi que s'est lancé SuperIndep. Le superman de la micro-entreprise s'appelle Émilien Pécoul. Ce Lyonnais a créé une plateforme permettant d'accompagner les auto-entrepreneurs dans le dédale des démarches à effectuer pour créer une structure et la développer. Interview dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis à la fin de cette édition, les résultats sportifs du week-end. Tous ces titres vous seront développés dans quelques instants.
Pour des lendemains qui respirent, la zone à faible émission concerne déjà les voitures critères 4, 5 et non classées. Vous êtes concerné par cette obligation européenne et vous ne savez pas comment faire? La métropole de Lyon vous accompagne avec des solutions et des aides financières en complément de celles de l'État. Des conseillers de l'Agence des mobilités sont là pour vous aider. Renseignez-vous sur zfe.grandlyon.com et sur mobilité.grandlyon.com.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les intempéries sur le Rhône, 10 cm de précipitation localement, soit presque un mois de pluie en un jour. Les pompiers comptabilisaient plus de 70 interventions hier soir. Toutefois, aucun blessé n'est à déplorer. Cette importante pluviométrie a engendré quand même de nombreux dégâts. Un train qui reliait Firminy à Lyon a déraillé hier soir à hauteur de Grigny. Un accident engendré par un glissement de terrain. Deux personnes ont été prises en charge par les secours et 200 voyageurs évacués vers Lyon. Fezin s'est retrouvé envahi par un torrent de boue, des habitants ont vu leur logement envahi par les eaux. Une famille avec enfants a été évacuée et relogée d'urgence à l'hôtel après un glissement de terrain. Plusieurs automobilistes se sont retrouvés piégés par les eaux sur le chemin des Abricotiers dans le quartier de Ban à Givors. Ils ont dû abandonner leur véhicule sur place. De violents incidents en centre-ville à Givors ce week-end. Les abords de la mairie ont été le théâtre de violents affrontements. Deux voitures de la police municipale ont même été incendiées sur un parking fermé. Sans doute des représailles après l'interpellation samedi de 5 mineurs âgés de 12 à 16 ans soupçonnés d'avoir agressé un adolescent. Des renforts de la police nationale ont été déployés dans la ville hier. Le maire d'hiver gauche de la commune s'est dit choqué. La municipalité a l'intention de revoir le dispositif pour plus de présence policière un peu plus tard dans la soirée, a précisé Mohamed Boudjelaba. L'élu espère en outre que la justice condamnera fermement les fauteurs de troubles, dont certains font preuve d'un sentiment d'impunité. Fin de citation. La démission du maire LR de Mions, acceptée par la préfète, Claude Cohen quitte ses fonctions 2 ans avant la fin de son deuxième mandat. Il a évoqué des lourdeurs administratives, des propos antisémites récurrents et la perte récente de la compétence urbanisme par sa ville. Une séance extraordinaire du conseil municipal se tiendra vendredi. Deux noms circulent pour succéder à Claude Cohen. Michael Paco, l'adjoint à la sécurité, et Julien Guiguet, premier adjoint.
Lyon demain, histoire lyonnaise.
L'exposition universelle de 1894 à Lyon est rendue célèbre par l'assassinat du président Sadi Carnot au Cordelier en marge de sa visite. Exposition universelle, internationale et coloniale, telle était l'appellation exacte de cet événement qui s'est tenu dans le parc de la Tête d'Or sous une halle spécialement construite, grosso modo, en face de l'actuelle buvette des Signes. Inauguration le 29 avril 1894 par le maire de l'époque, Antoine Gailleton, il y a donc tout juste 130 ans. Un anniversaire qui passera inaperçu encore cette année, car cet événement est en fait assez peu glorieux, voire même suscite la honte. Des centaines d'individus ont été mis en scène aux yeux des visiteurs de cette exposition qui durera jusqu'en octobre. Des êtres humains exposés au même titre que les animaux du parc de la Tête d'Or aujourd'hui, comme pour montrer la supériorité des nationaux sur les peuples des colonies considérés comme inférieurs. Nous avons interrogé Christophe Amani du collectif Africa 50. Il nous explique pourquoi il est important de rappeler cette date du 29 avril 1894.
On parle de la Tête d'Or, donc il se passait l'inauguration de l'exposition universelle, plus particulièrement coloniale, puisqu'à cette époque, ces expositions avaient pour but de montrer la grandeur de la France. Donc, principalement des expositions universelles, mais aussi un côté colonial où on exposait toutes les réussites françaises dans ces colonies. Ainsi, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y avait une reproduction du palais du prince tunisien qui était au parc de la Tête d'Or. Sur les quais, il y avait aussi une reproduction du palais algérien et aussi il y avait aussi toute la partie d'Asie qui étaient représentés. Ça paraît aujourd'hui surréaliste de se dire que Lyon se levait au matin avec toutes les couleurs de des colonies françaises, mais c'était le cas.
Vous parlez d'un véritable zoo humain, c'était quoi exactement ?
Alors le zoo humain, c'était qu'à l'époque, il y avait des troupes qui se baladaient de pays en pays où on montrait les indigènes, alors les indigènes d'Asie, d'Afrique, qui vivaient comme ils vivaient chez eux, c'est-à-dire que les Africains vivaient avec leurs cases, on les voyait en train de piler des céréales, en train de nager, en train de cuisiner, et c'était une attraction pour les Lyonnais à l'époque, puisqu'à l'époque, on rappelle quand même qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, donc la seule attraction du dimanche, c'était ces zoos humains et c'était ces expositions coloniales.
Et les Lyonnais se passionnaient pour ce genre d'exhibition ?
Alors les chiffres qu'on a, c'est 3 800 000 visiteurs, puisque l'exposition a été ouverte le 29 avril 1894 et s'est achevée le 11 novembre 1894.
Et ça s'est poursuivi jusqu'en 1914, jusqu'à l'exposition universelle, c'est ça ?
Après, les troupes, si vous voulez, elles faisaient le monde entier. Hein. C'est comme le cirque, il y avait des troupes qui se baladaient, donc il y a certains qui disent qu'ils n'étaient pas si exploités que ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde cela, on se dit, mais comment ça a pu avoir lieu au parc de la Tête d'Or, quoi ? Quand on voit le parc aujourd'hui, on se dit, c'est inimaginable.
Pourquoi cette histoire est aujourd'hui cachée à Lyon, on n'a pas de commémoration.
Nous, on a essayé avec la municipalité précédente de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir une plaque pour que quand les Lyonnais marchent ou quand on fait son footing, de se dire à ce moment-là, à cet endroit, il y avait des gens qui étaient exposés comme des animaux. Ou après, plus tard, un parcours. Donc, on est en négociation avec la municipalité actuelle pour voir ce qui est possible. Mais il faut savoir quand même que pas loin de là, il y a l'espace Gandhi, il y a l'espace Martin Luther King, il y a l'estelle des droits de l'homme qui sont pas loin. Et on se dit, c'est tout de même assez curieux qu'on ait gommé tout ce passé.
Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui ?
On réclame juste que y ait un endroit où que la Tête d'Or, on puisse dire, il y a eu ça. L'histoire n'est pas forcément que glorieuse, il y a des parts sombres de l'histoire, et puis il faut les savoir. Puis une fois qu'on les sait, ça permet d'éviter que certains marchands d'illusions viennent récupérer ce pan de l'histoire pour opposer les Français les uns aux autres.
Christophe Amani, un membre du collectif Africa 50. Plusieurs collèges du département pourraient être perturbés ce lundi. Les personnels protestent toujours contre la réforme du choc des savoirs qui instaure des groupes de niveau au collège. Plusieurs syndicats appellent de nouveau les personnels à se mobiliser contre une école du tri social. La réforme du choc des savoirs a pour but, selon Gabriel Attal, d'élever le niveau de tous les élèves. Elle repose sur la mise en place de groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. Un rassemblement est prévu ce lundi à 14h30, place de la Comédie à Lyon, et mardi après-midi devant le rectorat. Les travaux de création de la ligne de tramway T10 qui reliera les stations Gare de Vénissieux et Altony-Garnier. Attention, l'itinéraire de la ligne T1 est temporairement raccourci en raison de ce chantier. Les stations Debourg et ENS Lyon ne sont pas desservies jusqu'au 2 juin. La station Altony-Garnier fait office de terminus pendant un peu plus d'un mois.
Lyon Demain, le média influenceur d'avenir.
Avec nous aujourd'hui, Émilien Pécoul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Super Indep. C'est une plateforme qui permet de gérer l'administratif des auto-entreprises. Et puis c'est aussi un petit peu le représentant un petit peu de ce secteur. Racontez-nous, c'est quoi exactement Super Indep ?
Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un des leaders de l'accompagnement des auto-entrepreneurs en France. Donc on accompagne plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs depuis 2018 sur toute la partie administrative, donc tout ce qui est déclaration, URSSAF, TVA, etc. Et en effet, on est parmi les seules entreprises à être pure player sur ce secteur, c'est-à-dire qu'on accompagne que des auto-entrepreneurs depuis 2018, ce qui fait qu'on est vraiment en effet des grands spécialistes de ce régime et que au fil du temps on est un petit peu devenu des représentants aussi pour eux, puisque aujourd'hui on a les moyens d'aller porter des messages, d'aller discuter notamment avec l'État pour essayer de faire changer les choses.
Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est exactement une micro-entreprise ?
Une micro-entreprise, techniquement parlant, c'est une entreprise individuelle, donc c'est un statut particulier quand on est indépendant, avec deux options, une option micro-fiscale et micro-sociale. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces options permettent de simplifier la gestion comptable pour, en particulier, éviter d'avoir recours à un expert comptable. Tout est calculé de façon forfaitaire, donc tout est beaucoup plus simple que dans une entreprise classique. Mais je répète tout le temps que c'est simple, simplifié, mais pas simple. Simplifié, ça veut dire qu'en effet, c'est plus simple que gérer une entreprise classique, mais c'est pas simple pour autant parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a quand même beaucoup de choses à gérer et il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire qui peuvent coûter extrêmement cher.
Alors on y reviendra. Quel est le poids des micro-entreprises aujourd'hui en France et est-ce que vous avez des chiffres dans la région ou à Lyon ?
C'est juste phénoménal, le nombre d'indépendants en France aujourd'hui, c'est 2 700 000 personnes dont plus de la moitié sont des auto-entrepreneurs. En fait, quand on regarde le nombre de créations d'auto-entreprises, ça a complètement explosé et aujourd'hui, c'est vraiment vraiment ce qui tire la création d'entreprises en France vers le haut et qui fait que quasiment chaque année, on bat des records de création d'entreprises. En fait, si on enlève les auto-entreprises, on se rend compte que la création d'entreprises, elle stagne plus ou moins depuis 10 ans. Et par contre, la création d'auto-entreprises, elle explose complètement.
Quand ce régime a été créé, on a dit que c'était un régime qui était facile à mettre en place. Ça l'était au départ, un petit peu moins aujourd'hui?
Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est un petit peu complexifié avec le temps, notamment avec l'ajout de devoir potentiellement gérer la TVA, mais c'est aussi venu avec des nouveaux avantages, et en particulier le fait de pouvoir faire un chiffre d'affaires plus important que ce qu'on pouvait faire historiquement parlant. Donc historiquement, je dirais que ça avait vraiment été pensé comme un à côté, en fait, pour faire soit pour tester vraiment des idées, soit pour travailler à côté de son travail salarié, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu une vraie solution, un régime vraiment qu'on peut vraiment utiliser pour avoir une activité à plein temps, puisqu'on peut aller pour faire du service jusqu'à 77 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui permet aujourd'hui largement d'en vivre à plein temps et de très bien en vivre. Effectivement, ça s'est un petit peu complexifié, notamment sur ces sujets-là, mais ça permet aussi d'en faire quelque chose de plus viable et pour se lancer, qui est souvent une option par défaut, qui est très très bonne dans tout un tas de situations, et notamment dans toutes les situations où on a peu de frais, en fait, quand on se lance.
Alors la première difficulté, c'est ce fameux guichet unique qui a été instauré, qui est géré aujourd'hui par l'INPI, c'est ça ?
Globalement, tous ceux qui ont essayé s'en plaignent, toute la profession, notamment des comptables et des experts comptables qui travaillent tous les jours avec, tout comme nous, s'en plaignent énormément. En fait, c'est une plateforme qui part d'une bonne idée, c'est-à-dire qu'ils ont voulu centraliser toutes les démarches au même endroit, puisqu'avant c'était un peu compliqué, suivant son activité, il fallait aller voir différentes chambres ou différentes entités pour créer sa structure. Aujourd'hui, tout est centralisé au même endroit, mais ce qui est compliqué, c'est que ça a été fait trop vite, sans doute par les mauvais acteurs, et du coup, la plateforme a énormément de bugs, mais même au-delà des bugs informatiques dont on se doute qu'un jour ils vont finir par réussir à les régler, il y a surtout des problèmes métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, nous, avec SuperIndep, on accompagne beaucoup, par exemple, d'artistes-auteurs qui veulent rajouter une activité en micro-entreprise. Ça, aujourd'hui, sur la plateforme de l'INPI, c'est juste impossible. Donc, il faut contourner le système, il faut les appeler, il faut régler les choses à la main. Ça prend du temps, c'est chronophage, c'est assez insupportable. Et surtout, ce qui est insupportable, c'est qu'on a vraiment du mal à avoir des interlocuteurs en face. C'est-à-dire des gens qui nous répondent clairement en disant « oui, on sait qu'il y a un problème, on va s'en occuper ». Souvent, on nous répond complètement à côté, donc c'est ça qui est très frustrant sur cette plateforme.
Alors l'autre gros problème, c'est ce problème de la TVA. La TVA qui a été instaurée pour les micro-entrepreneurs parce que le chiffre d'affaires a été doublé. C'est quoi le piège de la TVA que vous dénoncez, Émilien Pécoul ?
Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est pas tant la TVA en tant que soi, puisque la TVA, globalement, c'est un avantage pour l'entrepreneur. Ça lui permet de récupérer la TVA sur ses dépenses, même quand il est en auto-entreprise, ce qui est quelque chose qui est assez peu su par les auto-entrepreneurs d'ailleurs. Mais du coup, c'est vraiment un avantage. La plupart du temps, ça permet à l'auto-entrepreneur, quand c'est bien géré, de gagner de l'argent. Sauf que comme par défaut, ils n'y sont pas soumis, souvent ils ne font pas attention et ils dépassent le plafond des 39 000 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est 39 100 si on fait de la prestation de service notamment, c'est à peu près deux fois plus élevé si on fait de l'achat-revente. Et quand on dépasse ce seuil, là, on devient obligé de gérer de la TVA. Et ce qui se passe, c'est que comme très souvent les auto-entrepreneurs sont mal accompagnés ou mal organisés, suivent pas forcément de très près tout ça, ont pas forcément toutes ces informations, il arrive très souvent qu'ils dépassent ce seuil sans s'en rendre compte. Ce qui fait que, par exemple, si vous dépassez en 2021 mais que vous en rendez pas compte, vous continuez votre activité tranquillement, en fait, 3 ou 4 ans plus tard, donc là en 2024, vous allez recevoir un courrier des impôts qui va vous réclamer tout simplement 20% de votre CA depuis la date de dépassement, donc depuis 2021. Donc vous imaginez la stupeur des personnes qui reçoivent un courrier, qui sont auto-entrepreneurs, qui pensent qu'ils n'auront jamais de problème, qui pensent tout faire bien, qui arrivent à gagner leur vie, qui sont plutôt contents, et qui reçoivent un courrier qui leur réclame 30, 40 000 euros. En fait, on leur demande 20% de leur chiffre d'affaires sur plusieurs années. Donc évidemment, c'est très difficile à gérer quand c'est mal géré, et notamment dans ces situations où ils sont obligés de rattraper dans le temps. Ce qu'on est allé demander justement, c'est que l'État soit beaucoup plus proactif pour prévenir les auto-entrepreneurs.
Quel accueil, justement, vous avez eu des services d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises?
Alors, on a été très bien accueillis, honnêtement. On a vraiment été pris très au sérieux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les discussions étaient très intéressantes et surtout, ce qui était rassurant, c'est qu'on voyait que le sujet en face était maîtrisé sur les différents points qu'on a abordés. Il était maîtrisé, il était compris et les solutions envisagées ont été largement discutées. Alors, pour la TVA, justement, le fait que l'URSSAF puisse l'idée, le sujet et envoyer un message aux auto-entrepreneurs, c'est quelque chose qui leur semblait absolument pertinent, mais qui malheureusement peut être un peu compliqué à réaliser parce que normalement, c'est pas leur champ d'action, la partie impôt, mais ça n'empêche pas qu'ils vont essayer de pousser effectivement cette solution pour faciliter la vie des auto-entrepreneurs. Sur l'autre sujet, notamment de l'INPI, là-dessus, évidemment, ils avaient déjà beaucoup de chantiers en cours. Moi, ça m'a aussi permis de savoir ce qu'ils avaient déjà mis en place pour essayer de régler ces problèmes-là. Mais j'ai notamment pu apprendre qu'il existait un comité d'utilisateurs. Et là, pour le coup, je leur ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte que moi, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. J'étais même pas au courant de l'existence de comité d'utilisateurs. Il faut vraiment que vous communiquiez beaucoup plus sur ce sujet-là et que vous nous expliquiez le travail que fait ce comité et comment est-ce qu'on peut leur remonter des choses. Puisqu'en gros, c'est exactement le type d'interlocuteur que nous, on réclamait, justement, d'intermédiaires, d'interlocuteurs qui ne soient pas l'INPI pour remonter des problèmes et pour faire en sorte que ça avance, quoi.
Pour terminer, que propose exactement votre plateforme et pour quel coût vous promettez la sérénité hein, aux micro-entrepreneurs
À quel prix ? Administrative ne coûte que 19 euros hors taxes par mois. C'est quasiment donné à ce prix-là. L'idée avec notre plateforme, c'est qu'à part facturer, nos clients n'ont absolument plus rien à faire. On s'occupe de toutes les déclarations et surtout, on est capable de vérifier avec nos algorithmes toutes les nuits que tout est à jour en termes de déclaration. On fait comme une sorte de mini-contrôle fiscal toutes les nuits, justement pour faire en sorte de vous promettre que vous n'allez jamais recevoir un courrier du type, justement, vous avez oublié votre TVA, vous avez mal déclaré vos impôts, puisque tout ça est vérifié de façon automatique toutes les nuits.
Merci Emilien Picoul, cofondateur de Super Indep, que l'on retrouve très facilement en tapant Super Indep sur Google.
Absolument.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Les résultats sportifs du week-end, l'Olympique Lyonnais a signé une victoire capitale 3-2 hier soir face à Monaco. Les deux équipes étaient à égalité, mais un but tardif de Fofana a permis à l'Olympique Lyonnais de faire la différence et de gagner. Dans la soirée, l'OM battait Lens 2-1. L'Olympique de Marseille est 7e, l'Olympique Lyonnais est 8e. En football féminin, les Lyonnaises ont battu le PSG au Parc 2-1. Elles disputeront leur 11e finale de Ligue des Champions le 25 mai à Bilbao face à Barcelone. En basket, l'ASVEL a souffert avant de s'imposer face à Saint-Quentin, 79-77, une équipe picarde qui avait humilié Villeurbanne au match aller. Le Loup a battu la section paloise avec le bonus offensif pour le compte de la 22e journée de Top 14, c'était samedi. Victoire des Lyonnais 38-20, le Loup est 11e. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer en attendant une excellente journée à l'écoute de nos programmes.